is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Eh bien, bienvenue à l'émission des livres pour dire, l'émission bimensuelle de Scripta Lunia. Nous sommes sur les ondes de Radio Air Libre à Bruxelles et dans le monde entier via Internet. Au micro, j'ai le plaisir d'animer cette réunion. Donc, je m'appelle Jean-Paul Matelot et je suis moi-même actif dans un collectif d'écrit, le collectif FIA de deux mots. Mais aujourd'hui, en fait, nous sommes le 31, un réveillon comme on n'en a jamais vécu. Oui, confinement, oui, mais pas seulement. Oui, ce soir, vous allez entendre d'autres voix, car c'est l'ADN de Radio Air Libre. Et quel est le slogan de Radio Air Libre, chers auditeurs? Je vous le donne en mille. Une voix différente dans la jungle des ondes. Voilà. Et ce soir, nous accueillons une vraie délégation. Donc, j'accueille Géraldine Catineau. Géraldine, est-ce qu'on peut t'entendre?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. J'ai aussi Amanda Dos Santos Machado. J'espère que je prononce correctement.
Oui, c'est parfait. Bonsoir. Oh.
Bonsoir. Nous avons Shadia Faiz. Shadia. Elle n'est plus
oui,
là.
Oui, je suis là.
Ah si, voilà.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Nous avons Rosetta Gianfelice. Rosetta, on ne t'entend pas. On t'entend pas et nous avons Lorenzo Massa.
Bonsoir. Bon réveillon tout le monde.
Voilà, et Regina Rurer.
Bonsoir à tout le monde.
Voilà, donc 6 personnalités d'un collectif un peu particulier, c'est vrai qu'il est virtuel pour l'instant en tous les cas. Et il s'appelle Démasquer. Ce collectif vient, donc Démasquer vient de lancer son recueil qui s'appelle Mars 2020, un recueil que vous pouvez d'ailleurs déjà découvrir en ligne sur le site que vous connaissez tous, donc scriptalinea.org. Voilà, donc ce collectif Démasqué vient de naître. Alors, première question que je vous adresse aux 6 participants, quel a été le point de départ de ce collectif d'écrit? Qui veut intervenir? Regina veut intervenir, très bien.
Le point de départ était le confinement même, donc le premier confinement. Et l'idée de participants d'un collectif d'écrit qui avait l'envie de que l'écriture puisse continuer et que les gens des différents collectifs d'écrit puissent se relier à travers l'écriture. Et il y avait Sylvie de Mol à la base de cette idée et Isabelle de Frint. Sylvie de Mol, elle avait l'envie de garder une trace écrite de cet événement très, très particulier. Et Isabelle de Frint, elle avait aussi envie de parler des inégalités, des suites de ce confinement. Voilà pourquoi ils ont lancé l'idée. Et il y avait tout de suite 28 personnes qui ont répondu.
Ça veut 28 dire... personnes?
Oh oui.
Wow.
Ça veut dire qu'il y avait quand même une envie, une nécessité de plein de personnes.
Je crois qu'à l'heure actuelle, vous êtes toujours une vingtaine.
Voilà, c'est ça.
C'est fantastique. Bien, et aussi pourquoi ce nom Démasqué, évidemment, qui joue un peu sur les mots, pourquoi ce nom Démasqué? Lorenzo, tu veux intervenir ou Géraldine?
En fait, Démasqué, justement, parce que c'était un collectif virtuel, donc on ne se connaissait pas. Donc certains se connaissaient, d'autres pas. Moi, je ne connaissais que 2 personnes, seulement de tout le groupe qui participait au collectif virtuel. Donc, on était masqués, puisqu'on ne se connaissait pas. Et puis, démasqués, parce qu'à un moment donné, du virtuel, on est passé au préférentiel, sauf moi. Et donc là, les gens se sont vus sans masque, et sauf, voilà, donc le masque est tombé. Et puis voilà, donc on a joué un peu sur le mot de démasqué et masque qu'on a porté, qu'on a enlevé, etc. Donc ça vient un peu dans cette dualité du mot entre le virtuel au départ et le fait, ben, à un moment donné, on a enlevé le masque. Donc voilà, c'est ce que, pour moi, ça voulait dire ça. Et donc le titre venait de ça, notre nom du collectif.
Oui, d'ailleurs, c'est un avantage d'être confiné ici, d'être en vidéoconférence, puisque nous n'avons pas de masque, voilà, tout en restant dans des mesures tout à fait de protection individuelle. Amanda, tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur pourquoi ce nom?
Je suis tout à fait d'accord avec la description de Géraldine. Et aussi, il y a un côté de se connaître. Par exemple, je suis à Lyon, donc je ne connaissais pas les autres participants. Et à travers de la visioconférence, j'ai eu l'opportunité de connaître les personnes, même que par visioconférence. Mais c'est déjà une bonne façon de connaître les gens et de maintenir les contacts avec les gens dans cette période de confinement et de distanciement physique, c'est ça.
Très bien. Renzo, qu'est-ce qui, pourquoi ce nom? Je pense aussi que tu es pas mal intervenu dans le choix du nom.
Oui, en fait, chacun avait proposé un nom de collectif. Donc, moi, je n'avais pas spécialement proposé ce nom-là. Donc, je ne suis peut-être pas, la personne la mieux adaptée pour expliquer en fait le choix de ce nom-là. J'avais proposé d'autres noms, mais il convient parfaitement. Et je suis vraiment très content qu'on l'ait finalement choisi. Mais donc je suis sinon tout à fait d'accord avec ce que Géraldine a dit à Amanda aussi.
Tu étais un peu le rebelle alors.
Oui, mais en fait pour ne rien vous cacher, en fait j'avais proposé les claviers rebelles comme.
Ah ben voilà.
Mais non, mais c'est très bien parce que ça donne vraiment très 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 bien sur la couverture. Et puis voilà.
Très bien. Et Shadia, alors en quoi ce nom est-il hors du commun en fait? C'est pas du tout habituel.
Oui, effectivement. Je voudrais juste ajouter que le titre qui a été choisi, il était parmi beaucoup d'autres titres. Et ce qui était vraiment, la chose que j'ai trouvé vraiment bien, c'est la façon démocratique avec laquelle on a choisi ce nom, ce titre. Donc c'était vraiment un éventail de choix et on a travaillé longtemps sur ce choix. Et après, ce nom-là, c'est ce nom-là qui a pris beaucoup de points, donc de vote. Donc on a fait sur une manière, sur base de vote. Et ce qui était vraiment quelque chose de très, vraiment quelque chose qui donne une certaine égalité et aussi une certaine concertation ensemble. On a ensemble choisi ce titre et après avoir débattu sur tous les titres qui étaient, si on veut dire ça comme ça, en compétition. Et on a trouvé que c'est le seul titre qui représente vraiment ce collectif. Et il est plus profond que cela. Parce que
qu'est-ce que tu veux dire par profond?
Profond, je voudrais dire que les masques, il fait allusion au confinement. Démasquer, c'est quand on va entendre ce mot, on va croire qu'il s'agit de démasquer. C'est comme si on va démasquer quelque chose. Et c'est vrai, au fond de nos écrits, le lecteur va découvrir des choses vraiment qui étaient dites d'une certaine liberté. Donc, il y a des masqués, il y a aussi le masque qui est présent, vraiment, il a une présence forte. Et il fait aussi allusion à quelque chose qu'on voulait dire d'une manière libre malgré le confinement, malgré les restrictions qu'on a vécues et qu'on vit jusqu'ici.
Voilà, super. Rosetta, tu veux ajouter quelque chose? Ah. On a perdu Rosetta. Bien, alors, écoutez.
Sinon, peut-être.
Oui.
Peut-être
oui, oui.
En fait, bon, c'est pour des aspects un peu plus pratiques. Et pourquoi il est hors du commun? C'est qu'en principe, un collectif rassemble ordinairement des personnes en présentiel. Voilà, et ces personnes se rencontrent physiquement. Du fait du confinement, nous avons dû tenir des relations en fait, à distance, nous entretenir virtuellement, par visioconférence, par email ou quel que soit le moyen à choisir. Et donc, il y a eu aussi cela d'inhabituel que de réunir des personnes de collectifs différents qui ne se connaissaient pas. Donc, il s'agissait en fait un peu en quelque sorte d'un intercollectif virtuel.
Un intercollectif virtuel,
Oui.
voilà. Et donc, c'était important de dire que je crois que vous avez été plusieurs à le dire, vous ne vous connaissiez pas, enfin, peut-être deux ou trois personnes, mais sans plus. Voilà. Donc, vous vous êtes rencontrés pour la première fois vraiment de façon virtuelle, ça?
Oui.
D'accord. Regina?
Il y a une autre chose qui est peut-être hors du commun, parce que les collectifs d'écrit s'inscrivent normalement dans le quartier où ils sont installés physiquement. Donc là, on n'avait pas un endroit où on était installé, donc on n'avait pas non plus ce réseau de l'associatif, du monde associatif autour de nous. Donc ça s'est vraiment concentré autour des personnes, des écrivantes. Voilà, c'est ça aussi qui fait une différence avec un collectif d'habitude.
Très bien, ben voilà, beaucoup de différences. Alors, je vous propose déjà une première pause musicale. Viva la vida, muera la muerte de Modena City Ramblers.
Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad.
La historia es nuestra y la de los pueblos.
Viva la vida y muera la muerte.
Questo è il tuo tempo, non lo lasciare, un vento che passa e che non tornerà mai. Corre veloce, senza esitare, non guarda indietro il tempo che se ne va. Questo è il tuo tempo, sta in fondo al cuore, pulsa col sangue, corre forte nelle vene. È il tuo respiro, non lo sprecare, brucia in un rimpianto se ti perdi ad aspettare. Tempi di guerra, ma in un tempo di pace, tempi moderni da consumare. Segui adesso il ritmo, questo è il tempo di saltare. Viva la vita, muera la muerte. Viva la vita, muera la muerte. Viva la vita, muera la muerte. Viva la vita,
che viva la vita.
Alors, à propos de l'organisation, je crois que vous êtes 20 dans votre collectif. Comment vous avez fait pour vous rassembler? Alors, parce que j'imagine que la vidéoconférence était peut-être une première pour certains d'entre vous.
Au départ, en fait, mon groupe à moi était en divisé en sous-groupes. J'étais avec Isabelle et Mélissa, et on a fait que par mail. Bon, moi, je n'ai jamais vu Mélissa, je ne l'ai vue qu'une seule fois par vidéoconférence. Je ne connaissais pas du tout Mélissa. Et donc, on a travaillé tous les trois, notre sous-groupe par mail. Donc, il y a d'autres sous-groupes qui ont travaillé par vidéo. Et voilà, donc, sans connaître la personne, j'ai dû avoir confiance et me livrer à quelqu'un que je ne connais pas, et livrer mes textes à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, ce n'était pas évident. Donc, effectivement, comme disait Regina, ce n'était pas des groupes du quartier où on fonctionnait, où on se connaissait quand même au départ, avant de commencer quelque chose. Et là, voilà, c'était quand même très étonnant et étonnant pour moi d'avoir une confiance comme ça d'écrire face à quelqu'un que je ne voyais pas. Donc, c'était assez troublant pour moi.
Troublant, oui, c'est ça. Et tu as pu quand même faire face à ce trouble au fur et à mesure des réunions. Parce que vous avez eu combien de réunions en fait depuis le début?
Je ne sais pas, moi, d'abord par mail, mais je crois que Regina ou Lorenzo pourraient davantage répondre parce que ils étaient en préférentiel à un moment donné. Donc voilà, il y a eu beaucoup de réunions. Je n'ai pas compté, mais énormément.
Ouais, en fait, il faut expliquer qu'abord, il y a eu toutes les réunions en sous-groupe, et ensuite, après les réunions qui concernaient normalement l'ensemble du collectif, bien qu'elles se soient faites aussi en deux grands groupes. Parce que du fait du confinement, même en présentiel, on ne pouvait pas être plus de 10 personnes, je pense. Mais se rappeler de combien il y a eu de réunions exactement, ça peut être difficile.
Enfin, il y en a eu beaucoup, disons.
Oui,
OK.
en sous-groupe, il y en a eu, je ne sais pas, peut-être
À peu près, à peu
4 ou 5. Et ensuite, on commençait les réunions présentielles. Là, je ne sais plus s'il y en a eu 2 ou 3 d'abord. Puis, on aurait pas, enfin, du fait du reconfinement, on a dû reprendre en fait les réunions en visioconférence. Et là, il y en a eu encore quelques-unes. Je ne sais pas
Oui.
combien, mais.
Donc, depuis que le collectif existe, il n'y a pas eu que des réunions virtuelles, il y a eu aussi des réunions au départ qui étaient en présentiel, alors. D'accord. C'est
Pas
ça?
au départ,
Non,
justement.
pas au
Non, parce
départ.
qu'il
Non, non.
était lancé, justement, dans cet esprit-là, le collectif virtuel, en fait, au début, il s'appelait, puisqu'on ne pouvait pas, je veux dire, se réunir. Donc, c'était une manière de quand même, voilà, réaliser quelque chose, même si on ne
Ça faisait
pouvait pas.
partie de l'ADN du groupe, c'était virtuel. Et puis, par la force des choses, il y a eu quelques réunions quand même en présentiel, c'est ça.
Mais dès qu'on a eu l'autorisation, en fait, dès qu'il y a eu un certain moment de déconfinement, on va dire, on avait la possibilité de se réunir plus ou moins 10, je pense. C'est pour ça qu'on avait fait deux grands groupes pour permettre à tous les membres de se réunir. Et puis, encore une fois, voilà, rebasculement dans le confinement et on est reparti en
Basculement,
virtuel.
basculement, oui. Mais donc vous avez bien démarré en mars 2020, c'était d'où le titre de votre
Oui.
recueil. D'accord. OK. Très bien. Alors peut-être on peut un peu parler des avantages et des désavantages. Je peux peut-être faire un tour de table alors sur les avantages. Oui. Oui, Géraldine.
Oui.
Oui, Rosetta. Rosetta, ton micro n'est pas branché apparemment. On te voit, mais on ne t'entend pas. Oui, Géraldine.
Oui, moi je voulais dire sur le titre mars 2020, ce n'est pas vraiment le. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas lui au départ du collectif, c'est au départ du confinement et de. Voilà, c'est. Mars 2020, c'est le début du confinement. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse date de mars 2020, en fait. Ce n'est pas du départ du collectif.
Et ceci, on l'expliquera probablement plus en
Oui, mais
détail.
peut-être que comme il pensait, donc je voulais quand même souligner.
D'accord. Alors, Regina?
Je voulais revenir à ta proposition de parler des avantages et des désavantages.
Oui, on peut faire un tour de table, effectivement. Voilà. Oui.
Et peut-être relié avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les réunions de les compter dans notre sous-groupe, c'était difficile. C'est difficile parce que nous, on avait décidé de ne pas se réunir justement. On avait décidé à trois dans notre premier sous-groupe qui était fait par Isabelle et Sylvie. Enfin, ils ont aussi expressément réunis des gens qui se connaissaient pas, c'était vraiment l'occasion pour relier des gens des différents collectifs qui se sont jamais rencontrés. Et donc assez rapidement, moi j'avais pas du tout envie de me mettre en visioconférence avec les personnes, mais plutôt être dans un échange par écrit réellement, et de s'écrire des lettres par mail parce que bon, la poste c'est un peu longue, mais. Mais c'était
Oui.
peut-être, oui, mais c'était des lettres, c'était dans l'esprit des lettres. Et donc voilà, on a passé vraiment toute une partie de rencontres ensemble, vraiment par écrit. Et le grand avantage pour moi, c'était vraiment une excitation d'avoir des messages dans la boîte aux lettres, des personnes que je découvre, oui, et d'échanger sur ce qui est en train de se passer, sur nos quotidiens. Et voilà, cette découverte des personnes un peu comme dans le temps, quand j'étais adolescente et j'avais des copains lointains à travers l'écriture et les lettres. Comment ça s'appelle? Des correspondances.
Voilà. Des correspondances avec l'étranger, oui, oui, oui.
Poster à ça, et c'était vraiment excitant.
Oui, oui, voilà. Donc, effectivement, j'ai noté découverte. Effectivement, personnellement, c'est quelque chose, c'est un mot qui me touche beaucoup dans les activités des collectifs d'écrit. Voilà. Quelqu'un d'autres avis sur peut-être les avantages? On va d'abord se centrer sur les avantages. Amanda?
Pour moi, l'avantage, c'est de réduire les distances et de réunir des personnes, d'écrivains et d'écrivantes différents. Et comme Regina a dit, de découvrir des tests, découvrir d'autres façons de penser. Donc, ça a été vraiment enrichissant, tous ces échanges. Et ça a permis de donner un sentiment de n'être pas complètement seul dans cette période compliquée que ça a été le confinement.
Très bien. Shadia, les avantages pour toi?
Effectivement. Pour les avantages, oui, je peux dire que, en général, c'est le mot découverte, en fait. Parce que dans cette expérience inédite, il y avait une grande découverte de moyens de communication que tout le monde n'était pas vraiment trop fan. Donc, c'était une stimulation vers la découverte de moyens de communiquer, mais autrement. Surtout que nous tous, on est venus des collectifs en présentiel. Donc, ce n'était pas évident au début. Donc, tout d'un coup, on va faire une transition à 180 degrés pour aller vers un autre moyen de communication, un autre moyen de communication et le choisir. Parce qu'on sait très bien que la technologie moderne, qui avance à grands pas. Et nous, comment on va communiquer? Quel canal allons-nous choisir pour communiquer entre nous? Donc, c'était d'abord la première question qui se posait quand on a été affecté vers des groupes. Est-ce qu'on est tous pour un moyen? Est-ce que l'autre, il maîtrise, il ne maîtrise pas? Et directement, il s'est installé une certaine solidarité dans ce sens pour amener tout le monde à communiquer de la même manière. On a vraiment réussi à faire ça. Et la seconde chose, c'est la découverte d'un autre moyen d'écrire. Parce que le présentiel, ce n'est jamais le virtuel. Est-ce que c'est possible? D'abord, c'était la question. Est-ce que c'est possible d'écrire en virtuel? Et quelle forme allait prendre? Donc, c'était cette question qui se posait. Et heureusement, et je suis très contente de ça, que le groupe s'est vite formé et aussi on a dépassé le cap là de connaissances et on a commencé à échanger à travers des mails nos écrits et ça a vraiment bien démarré.
Très bien. Lorenzo, les avantages, tu en vois d'autres?
Non, je rejoins un peu ce qu'a dit en fait Shadia. C'est vrai que si on n'y avait pas eu ce confinement, je pense que je ne me serais pas spécialement mis à tous ces moyens de communication virtuels, visioconférence et tout ça, parce que bon, je suis plus dans du style à rencontrer les personnes physiquement, et c'est vrai que je le préfère, mais bon, ça n'empêche pas quand même de connaître en fait tous ces moyens de communication, parce que je m'en suis très bien servi. C'est quand même utile, on va dire.
Voilà, alors on va peut-être voir si Rosetta est parvenue à brancher son micro. Rosetta? Eh bien non, toujours silence radio chez Rosetta. voilà, alors peut-être, est-ce que vous avez connu des désavantages dans ce fonctionnement à distance, dans ce fonctionnement virtuel Oui, Lorenzo.
Mais en fait, des avantages, je sais pas, c'est vraiment des désavantages, mais c'est juste, moi,
Inconvénient,
je
hein?
peut-être, oui, en fait, c'est plutôt, moi, c'est pour ce qui concerne, en fait, vraiment les réunions. Donc, ayant participé, en fait, à la fois aux réunions en présentiel et en virtuel, ben, j'ai pu un peu comparer les deux types de réunions. Donc, pour les réunions physiques, elles sont quand même beaucoup plus vivantes et beaucoup plus efficaces lorsqu'elles se font donc en présentiel. Et en face à face, en fait, après quelques échanges, moi je trouve qu'on a vite fait d'éclaircir quelque chose. Par contre, je dirais en mode virtuel, pour prendre des décisions concernant, par exemple, le nom du collectif ou le titre du recueil, je pense que ça s'est très bien fait, comme l'a dit Shadia, de manière collective et tout, mais je pense que ça a quand même pris beaucoup de temps, quoi, pour définir, par exemple, le nom et le titre, je pense, à des petites choses parfois qui ont pris. Enfin, un temps beaucoup plus grand que ce que ça aurait été fait en présentiel. Et donc, parce qu'il fallait simplement toujours consulter tout le monde et que les échanges par mail sont parfois un peu plus compliqués, c'est tout. Donc voilà, moi, ce serait simplement pour reprendre la conclusion d'un rapport d'une rencontre qui s'était faite physiquement, l'impression finale, donc à la fin de la réunion, ben, nous sortons tous contents de cette réunion. Agréable ou présentiel, envoie le virtuel au tapis et gagne par chaos.
Carrément au tapis.
Voilà.
Carrément au tapis. Oui, Amanda, des avantages éventuels, qu'est-ce que tu voudrais ajouter par rapport à ce que Lorenzo vient de dire?
Des avantages, c'est en fait de ne pas pouvoir rencontrer les personnes présentielles, vu que la façon d'échanger en présentiel, c'est plus vivante, c'est plus agréable. Aussi, la davantage, c'est de ne pas pouvoir rassembler tout le monde parce que des personnes, il a des plages d'horaires différentes, des compromis différents. Donc, ça, c'était une davantage de cette réunion en visioconférence, c'est ça.
D'accord. Regina, oui?
Oui, je ne parle pas de mon propre expérience là, mais j'ai eu des échos parce qu'on en a aussi évidemment débriefé la phase confinement. On était en petit sous-groupe de 3-4 personnes. Et il y avait quand même une petite difficulté qui est apparue dans certains groupes de trouver un rythme commun. Alors, quand on est en présentiel, c'est très clair, on installe un rythme dès le départ dans un collectif, on se voit tous les 2 semaines, tous les 3 ou une fois par mois, c'est défini, c'est très clair. Et apparemment, là, c'était un peu plus compliqué de trouver un rythme commun et qu'il n'y ait pas des frustrations, qu'il n'y a pas de réponse ou la réponse dure longtemps. Enfin, j'ai eu des échos comme ça. J'ai
Ouais.
entendu que
Pourtant, il me semble qu'en virtuel, il me semble, enfin personnellement, que trouver un rythme des fréquences est plus facile parce qu'évidemment, on ne doit pas se déplacer.
oui, mais peut-être que c'était aussi encore le début. Tout le monde devait se familiariser avec les
Des craintes, des
visioconférences.
freins, oui.
Et les rythmes des gens étaient quand même très différents. Et aussi, peut-être on laisse un peu plus traîner qu'un rendez-vous physique. Ouais, je sais pas. C'est. Ouais.
Ok. Autre réaction peut-être à ce que Regina vient de dire? Oui, Géraldine?
Voilà, en fait, ce que Regina dit est exact, mais je pense qu'il y avait une question de rythme par rapport au sous-groupe. Par exemple, mon groupe à moi qui était avec Isabelle et Mélissa, on avait décidé dès le départ de laisser 2 semaines pour répondre, pour etc. Et on a maintenu ce rythme-là quelques jours plus ou moins, mais voilà, on s'est tenu à un certain rythme parce qu'on avait décidé dès le départ, on avait signé entre nous cet accord-là, et donc on ne se sentait pas cette différence. Donc nous, on a travaillé au départ d'une manière très très rythmée, avec un rythme régulier en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, j'ai l'impression que chaque sous-groupe était très différent et que chaque sous-groupe travaillait différemment. Certains travaillaient en vidéo, nous on travaillait par mail, c'était quand même très différent aussi. On répond quand on peut, on dit que par vidéo, il faut tout le monde être présent à un tel moment pour pouvoir se voir. Donc il y avait deux manières ou trois manières peut-être de travailler différents par rapport au groupe.
Oui, c'est vrai qu'on peut combiner évidemment la vidéoconférence et les échanges par mail. Voilà, on peut faire du mixte en fait. Hein. Oui. Bon, alors effectivement, comment s'est un petit peu passée la transition virtuel réel, puisqu'on l'a vu, vous avez commencé par du virtuel, puis il y a eu du déconfinement, donc c'était réel, et puis il y a eu du reconfinement, donc de nouveau du virtuel. Est-ce que ça s'est passé sans difficulté, ou bien est-ce qu'il y a eu des petits heurts, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu votre expérience, là. Lorenzo, oui.
En fait, je veux quand même signaler qu'on était quand même une minorité à être présent, en fait, en réunion physique. Donc il n'y a pas tout le monde qui est venu en fait, parce que certains n'avaient peut-être pas le temps, parce qu'en visioconférence, à mon avis, c'est toujours peut-être plus simple, on est chez soi en fait, là, pour se renouer au physique, il faut peut-être prévoir le temps de déplacement en plus, mais il y a probablement ça qui a joué, et à mon avis aussi parce que simplement par crainte, à mon avis, de la proximité sociale due au Covid aussi, peut-être que certaines personnes ne voulaient pas venir fréquenter trop de personnes en même temps. Je pense que c'est ça qui a un peu joué.
D'accord. Vous étiez combien dans les premières réunions là, donc réelles?
Ça fluctue un peu. En tout cas, quand tout allait bien, on était, je sais pas, maximum 10, mais il y a des fois où on était moins, parfois peut-être un. 5 ou 6, le minimum parfois. Mais bon, il y a eu deux grands groupes. Hein, donc, dans le mien, c'était à peu près ça. J'étais avec Géraldine. Dans l'autre, ça, je ne sais pas comment ça a fonctionné. En fait.
Il y a quelqu'un qui faisait partie de l'autre groupe, Shadia, tu faisais partie de l'autre groupe, oui?
Effectivement, moi, j'étais parmi le groupe de présentiel. On était invités. Donc, j'ai assisté deux fois en présentiel avec le groupe. Donc, c'est une occasion où j'ai pu côtoyer donc les écrivains et on a eu un bon contact après vraiment une longue période de confinement et ça nous a permis d'avancer dans ce qu'on faisait. Surtout on a travaillé sur le choix de titres, sur beaucoup de choses, des textes, mettre l'ordre des textes et ça avançait très très vite. Et par rapport au virtuel, moi j'ai remarqué ça. Je rejoins ce que Lorenzo a dit tantôt pour si on compare le virtuel et le présentiel, on va remarquer directement que le présentiel il prime parce que le contact humain il ne peut pas être, il est irremplaçable. Par contre, le virtuel il reste toujours virtuel, surtout s'il n'y a pas de visioconférence. Si par exemple on parle que audio. Ça donne pas la même, ça donne pas la même effet, même résultat. Et le jour où on était là ensemble, on a avancé à grands pas et on a fait vraiment un travail formidable. C'est vrai qu'on est rentré très très content. Et malheureusement, ça a tombé vraiment des restrictions nouvelles qui nous ont empêchés de se revoir encore en présentiel et avancer dans notre travail. Ce qui a fait que nous sommes de nouveau en virtuel et en visioconférence jusqu'à maintenant.
Donc, si je vous comprends bien, quand même, le présentiel reste votre premier choix.
Bien sûr. C'est le contact humain.
Oui. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait à la limite comparer. Tu parlais du téléphone sans image. C'est un peu comme la radio ou la télévision. Effectivement, chaque média a toujours ses avantages et ses inconvénients. Ici, évidemment, on parle d'un média pour créer certaines choses. D'autres points que vous voudriez dire sur la transition, donc sur l'utilisation du présentiel par rapport au virtuel, du téléphone par rapport à l'email, hein, de ce mélange de médias peut-être. Regina?
Oui, donc ce qui pourrait être pour l'un ou l'une un désavantage pourrait être pour l'une ou l'autre un avantage. Par exemple, qu'on ait Amanda avec nous qui est à Lyon aujourd'hui. C'est grâce à la visioconférence qu'on est Géraldine avec nous et qu'elle était avec nous pendant tout le parcours. C'est grâce à la visioconférence parce qu'elle est toujours confinée aussi. Elle nous a suivis même pendant les réunions en présentiel. Elle était avec nous à travers la visioconférence. Que moi, dans mon petit sous-groupe, j'ai pu communiquer avec Sophie qui est elle-même travaille comme soignante, donc elle est médecin. C'était une chance parce que en présentiel, elle n'a pas le temps.
Oui, elle a une lourde charge. Oui,
elle a quand sûr. Même ouais. cet échange, on en a profité. Et après, elle a dû nous quitter parce qu'en présentiel, elle n'a pas le temps. Elle a un emploi de temps extrêmement chargé. Donc voilà, ce qui peut paraître désavantage pour les uns peut l'être avantage pour les autres.
Et à propos, Regina, où es-tu située, toi, pour l'instant?
Moi,
oui.
Je suis là maintenant, oui. aujourd'hui.
Oui.
Je suis à Hal, à 15 km de Bruxelles.
À Hal, voilà. Et Shadia, elle est située où? Dans un bel environnement. Bien coloré.
La commune de Mille-Bruxelles, en pleine ville, en pleine piétonnier.
Ah, voilà. Et Géraldine?
Anderlecht.
Anderlecht. Voilà. Et Lorenzo?
Je voudrais dire quelque chose,
oui, oui.
s'il te plaît, Jean-Paul, concernant le virtuel de ce que disait Regina. Effectivement, moi, je suis confinée avant tout le monde parce que j'ai une maladie auto-immune. Et mon médecin m'a confiné à partir du 7, du 2 ou du 7 mars. Depuis lors, je suis.
7 mars, oui.
Et depuis lors, je n'ai pas mis les pieds dehors juste pour aller chez le médecin ou à l'hôpital ou au départ et me promener parce que là, je peux me promener tous les jours.
J'ai pu confiné où ça?
Je suis en Anderlecht, donc j'ai chez moi.
D'accord.
Et depuis le mois de mars. Donc voilà, heureusement que j'ai une maison, que j'ai un jardin et je peux en profiter, sinon j'allais devenir folle. Mais voilà, donc je dis merci à tout le monde du collectif d'avoir supporté de m'avoir à moi en virtuel pendant qu'ils étaient en préférentiel. Et c'était pas évident parce que moi, ils devaient chaque fois s'adresser à moi et déplacer l'ordinateur pour que je puisse voir l'un ou l'autre. Et donc, je dis merci à tout le monde de m'avoir accepté comme ça. Sinon, ça n'aurait pas pu être possible sans la bienveillance de tout le monde. En fait.
Donc, le confinement, quelque part, peut être une ouverture alors, hein? Un accès à d'autres choses. Bien, alors je voulais un petit peu parler de votre recueil, puisque effectivement, là, vous avez bien travaillé. Votre recueil, pour l'instant, est accessible en ligne, d'ailleurs, sur le site. Comment vous vous êtes organisé pour réaliser ce recueil, puisque, comme on l'a dit depuis le début, effectivement, dans votre groupe virtuel, hein, quasiment exclusivement virtuel, comment vous vous êtes organisé, oui, Lorenzo?
En fait, il y a eu tout d'abord la définition du thème. Donc, il y a eu une consultation.
Tu peux rappeler le thème, peut-être, oui?
Donc là, c'était le confinement et ce qui évoque, en fait, cette situation, hein, pour être un peu plus large. Vraiment considérer le confinement uniquement. Et donc, en fait, on a commencé par consulter en fait, tous les membres du collectif pour définir vraiment ce thème. Ensuite, on a commencé par la création des sous-groupes de travail. Ça, c'est Sylvie et Isabelle qui l'ont fait. Et de manière, en fait, justement, à ce que ce soit des personnes qui ne se connaissaient pas qui se retrouvent ensemble, en fait. Alors il y avait un référent donc qui pouvait être soit Sylvie ou Isabelle pour chaque groupe auquel on pouvait s'adresser en cas de souci. Ensuite, on a laissé le soin aux sous-groupes de trouver leur propre organisation pour travailler. Ensuite, les membres ont écrit leurs textes et les ont partagés avec les autres membres de leur groupe dont ils obtenaient en fait des retours. Ensuite, les échanges se sont faits de différentes manières, donc on l'a dit, hein, soit en visioconférence, par email ou
oui,
on,
oui.
je ne sais pas, peut-être par WhatsApp. Voilà, donc ça c'était un peu selon les groupes. Ensuite, une fois que les textes ont été écrits, il y a eu des échanges entre les différents sous-groupes. En fait, ça s'est fait pour la première fois en présentiel. Donc il y a eu deux réunions, je pense, consacrées au retour sur texte. Ensuite, ont suivi d'autres réunions pour choisir, alors à ce moment-là, le nom du collectif, écrire l'éditorial, la présentation du collectif. On a travaillé par groupe en rassemblant les productions de chacun à la fin de la réunion. Ensuite, oui, lorsqu'on a été à nouveau confinés, les réunions se sont faites en visioconférence. Les tâches étaient attribuées à des personnes qui se portaient volontaires pour réaliser, par exemple, l'agencement des textes, pour réaliser la compilation, le retravailler du texte collectif, l'éditorial, la présentation du texte collectif, la présentation du collectif en soi, la présentation générale des auteurs et tout ce qui est à faire pour réaliser le recueil.
D'accord. Ouais. Comment se sont constitués aussi les sous-groupes dont tu parlais ?
Ça, c'est Isabelle et Sylvie qui l'ont défini. Donc,
et en fonction de critères précis ou bien simplement en disant on fait des groupes de 3-4 d'une quantité de personnes ?
Oui, voilà, il fallait diviser plus ou moins l'effectif au nombre de ce groupe. Donc, on était 3 et maximum 4, je pense. Dans notre groupe, on était 4. Les autres, c'était maximum 3. Mais le seul critère, c'était vraiment, je pense, de faire en sorte que les personnes se retrouvent avec des personnes qui ne connaissaient pas.
Ah, voilà. Ouais. Oui, mm-hmm. Oui. Ça peut... Oui, oui. Shadia.
Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que Lorenzo a dit. C'est que chaque groupe a choisi un nom à son groupe. Ça veut dire qu'on a un nom de groupe. Mm-hmm. Et chaque groupe a choisi un nom en concertation, bien sûr. Donc, nous, on avait... le nom de point de départ. Donc, notre groupe s'appelle point de départ. Mmh. Il y avait d'autres groupes. Donc, chaque groupe a choisi un nom qui le représente. Le critère, c'était... donc, Isabelle a fait en sorte que les membres ne se connaissaient pas. Donc, ils sont vraiment... ils ne faisaient pas partie du même collectif présentiel.
De la même bulle.
Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Donc, ça, c'était un point très... crucial. Elle nous a proposé et c'était vraiment un défi à relever aussi.
Voilà, défi. Très bien. D'une façon générale, est-ce que vous estimez que ce parcours pour réaliser le recueil a été semé d'embûches ou bien ça a coulé de source ?
Coulé de source plutôt, je dirais. Moi, je trouve que ça faisait très bien. Surtout partie où de la finalisation du recueil où il y a plein de tâches à accomplir qui sont plus ou moins longues et laborieuses, mais les gens ils sont quand même pris en charge. Merci à ceux qui ont beaucoup travaillé.
Ah oui, ça voilà. C'est sûr que c'est un travail de longue haleine, faire un recueil comme ça. Ça c'est très bien pour vous parce que personnellement dans mon collectif, on a bien travaillé aussi, mais on a mis beaucoup plus de temps que vous. Hein. Géraldine, tu voulais dire quelque chose?
Oui, comme Regina, c'était exact. En fait, il n'y a pas tellement d'envie. J'ai été un peu de ralenti, mais c'est pas du tout ça. On était vraiment, je dis à Isabelle, elle était là pour nous motiver, etc. Donc on a vraiment travaillé. Comme nous disait Shadia, par ce groupe, on a chacun, chaque ce groupe travaillait bien parce que chaque ce groupe était bien formé, j'ai l'impression. Donc, sans se connaître, ils avaient appris à fonctionner de certaine manière. Et ça, on a tous été ensemble vers un but final et là, il est formidable quand même. Notre recueil est quelque chose de formidable.
Très bien. Alors, je vous propose là une petite pause musicale. Ça va et ça vient de Vita et Slimane.
Dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal.
Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin.
Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si plus rien n'a de sens, si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là, alors on n'est pas bien. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas bien là.
Bien, alors je vous propose de parler de l'écriture proprement dite. Est-ce que vraiment ce confinement a-t-il affecté d'une façon positive ou négative votre façon d'écrire, Géraldine? Oui.
Je dirais oui et non, parce que effectivement au départ du confinement, j'étais enthousiaste. J'ai génial, c'est le confinement, je vais pouvoir faire plein de trucs que j'ai pas fait pendant longtemps. Je vais pouvoir me mettre à l'écriture, je vais pouvoir me mettre ceci. Au bout de 3 semaines, tout est retombé. Je traînaillais, j'arrivais plus à écrire, je faisais plus rien du tout. Et c'est grâce à Isabelle et à ce collectif que je me suis de nouveau remis à écrire. Parce qu'à un moment donné, à part les 3 premières semaines, c'était devenu une routine de ne rien faire. Enfin, de me lever le matin, me coucher le soir et entre temps, ne me demandez pas ce que je faisais, je ne sais pas vous répondre parce que je ne faisais rien du tout. J'avais arrêté d'écrire, j'avais arrêté de lire, j'avais tout arrêté au bout de 3 semaines. C'était devenu comme une chape qui est tombée sur moi. Et dès qu'Isabelle a parlé de ce collectif, je me suis ça m'a dit que vraiment pour moi quelque chose de formidable, une renaissance. Le mot peut paraître énorme quand je dis renaissance. Mais c'est pas loin de ça.
Une renaissance, oui, ça c'est pas mal évidemment. Hein, ok. Shadia, tu voulais dire quelque chose. Donc, est-ce que le confinement a-t-il affecté ou favorisé ta façon d'écrire?
Affecté, oui, parce que avant, je faisais partie du collectif des Encres d'Elle et on a fait un travail ensemble. Après, donc, j'ai arrêté par les contraintes du travail. Après, il y avait le confinement et il y avait le télétravail plus le travail là virtuel. Donc ce travail virtuel, il est tombé à pic pour moi. J'étais très très contente d'entendre qu'il va y avoir un collectif virtuel parce que j'avais envie d'écrire, parce que il me manquait quelque chose après avoir stoppé, entre guillemets, pas définitivement, mais momentanément, à cause des contraintes de mon travail. Après, quand ils avaient envoyé donc, le mail nous proposant une nouvelle expérience, j'ai sauté de joie, j'ai dit voilà, c'est ça ce que je cherche et je vais m'y mettre. Mais une fois dans l'expérience, j'ai vu combien c'était pas si facile que ça. Donc c'était pas comme d'habitude, comme écrire de manière fluide, parce que l'inspiration n'était pas au rendez-vous, malheureusement, à cause du confinement. Parce que la sensation d'être isolée, cloisonnée, ça a vraiment affecté mon moral et mon inspiration. Aussi, pour l'inspiration, j'avais l'habitude de sortir dans la nature, il m'inspirait beaucoup, mais il n'y avait pas ce choix-ci. Donc, non plus la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un environnement qui me donnait le calme et l'esprit vraiment, il est sain pour vraiment avancer. Il n'y avait rien de cela. Et là, j'ai dit, voilà, ça, je ne m'attendais pas à cela. Ce qui fait que ça a vraiment été difficile et de vraiment vivre dans le virtuel toute la journée. Le virtuel au travail et après le virtuel aussi dans l'écrit. C'était vraiment une période qui était difficile pour moi, mais j'ai dit je dois relever ce défi et je dois continuer à écrire et ça a marché. Je suis contente que ça a marché.
Pas d'interruption en fait, c'était virtuel, travail, boulot, etc. Enfin bon, écrire, oui. D'accord.
Oui, c'était que dans les virtuels.
C'était du continu.
Oui, du continu, oui, voilà.
Amanda, est-ce que tu es là?
Oui.
Ah voilà, est-ce que tu veux intervenir sur la façon dont le confinement a affecté ou favorisé ton écriture?
En fait, pour moi, j'ai vécu une expérience paradoxale parce que au même temps que le confinement m'a guidé pour une écriture plus pessimiste, mais en même temps, j'ai eu l'opportunité de réaliser une écriture plus critique. Donc, pour moi, c'est le paradoxe, c'est dans ce sens-là que malgré mes ressentiments de peur, d'angoisse, d'anxiété, j'ai transcrit dans mes tests la critique de toute cette période et de tous ces ressentis que j'ai vécu pendant les confinements.
Ah, donc serions-nous plus critiques dans le confinement? Lorenzo, qu'est-ce que tu en penses? Serions-nous plus critiques dans le confinement par rapport à notre texte?
Mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que ouais, je me retrouve un peu dans ce que Amanda... Il y a dire, c'est vrai que j'ai développé des textes peut-être assez critiques envers la société. Enfin, quand je vois qu'il y a plein de choses qui ne me plaisent pas autour de ce confinement, et c'est vrai que j'ai été fort critique, ça se voit à travers les textes que j'ai écrits. Maintenant, sinon, je ne sais pas, mais c'est plutôt le fait d'être en collectif pour moi qui a stimulé, encouragé la création plus que le confinement. C'est vraiment le confinement qui m'a inspiré. Oui, c'est une source d'inspiration quelque part, mais j'aurais pu m'inspirer tout à fait de la manière d'autres choses. Je ne pense pas que ça a été spécialement le confinement qui m'a inspiré plus que... Voilà. Par contre, pour moi, ce sont deux nouvelles expériences. Je n'avais jamais participé à des collectifs. Donc là, j'ai commencé, j'ai intégré le collectif des Allumés de la Plume en mars. On avait juste le temps d'avoir en fait une réunion en présentiel et puis paf, c'était fini, on n'a plus pu. Et en fait, j'étais un peu déçu parce que j'étais super motivé. Je me dis tiens, j'ai envie de me lancer un peu comme ça dans l'écriture. J'ai pas vraiment jamais écrit avant et j'étais motivé. Et puis je me dis mince, maintenant ce confinement qui vient, et ça va certainement gâcher tout. Et effectivement, en fait, c'est ce qui s'est passé avec le collectif des Allumés de la Plume. J'ai vu vraiment la différence dès que on était confinés, la fonctionnait vraiment ralenti. Et justement, il y a Isabelle qui est venue avec cette proposition-là du collectif virtuel. Et alors, j'ai sauté vraiment sur l'occasion pour me lancer là-dedans.
Deux pieds joints.
et voilà. Et c'est vrai que, comme l'a dit en fait Géraldine, ça a été très vite, parce qu'on avance, je vois le rythme, en fait, je veux dire, sur 6 mois, tout ce qu'on avait fait, je veux dire, le collectif virtuel, même dans l'autre collectif, je veux dire, on n'avance pas aussi rapidement, donc il y a une belle énergie vraiment positive, et enfin, tout s'est fait vraiment très, très vite.
C'est peut-être un avantage du virtuel, c'est que on est assis, mais c'est peut-être l'avantage qu'on a. On va plus vite, me semble-t-il.
Je ne sais pas, c'est plutôt au niveau, moi je pense, de la planification et des échéances qui ont été respectées. Ça, c'est dû vraiment à Isabelle qui a tenu les rênes formidablement.
D'accord. Regina, tu voulais dire quelque chose sur l'écriture, le confinement a-t-il affecté positivement ou négativement ton écriture?
Moi, je retiens de cette période un rapport autre au temps. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir faire des plans pour le futur, ça ramène dans le présent. Mm-hmm. Le fait de travailler à la maison, ça amène à une autre gestion du temps plus libre. Même si je travaillais autant, je n'ai pas l'impression que je travaillais moins. Mais je pouvais me créer des bulles quand je voulais.
Oui.
Voilà, dès que j'avais un impulse qui me venait pour écrire, je pouvais aller le faire. Je pouvais gérer mon temps librement dans la journée. Plus librement.
C'est aussi un peu paradoxal, évidemment. Oui.
J'ai senti un autre rapport au temps et aussi quelque chose de flottant qui
Qu'est-ce était que tu là. Veux dire par flottant, oui.
Justement, de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer, ça va continuer, de juste d'avoir cette bulle et de pas savoir quand elle va se terminer.
Oui, on attend d'une bulle qu'elle explose, mais là, elle n'explose pas, elle voyage et on ne sait pas très bien où elle va.
Hein. Ce rapport au temps, moi, m'a aidé beaucoup à écrire que d'habitude. Moi, mes journées sont tellement remplies que c'est difficile à trouver le moment pour écrire.
Le confinement a un petit peu arrêté le temps pour toi, alors?
Oui, oui et non, parce que à la fois, je dis, j'ai l'impression de quand même avoir travaillé autant, mais il y avait ce flottement de pas avoir tout planifié, pouvoir planifier non plus.
Une découpe peut-être des journées différentes, des activités, une découpe différente des activités.
Aussi.
Ouais. Autre chose, aujourd'hui on pourrait peut-être dire qu'on crève dans ce monde et vous, collectif donc démasqué, vous avez réalisé ensemble un texte intitulé « Je ne marche pas, je rêve d'un autre monde ». Quel était le but de ce texte, Lorenzo? Oui.
Mais l'idée de départ, en fait, c'était de proposer simplement un jeu d'écriture collective. Ça, c'était Isabelle qui a eu l'idée. Et je pense que, comme nous travaillons en fait au départ dans des sous-groupes isolés les uns des autres, l'idée était de lancer un jeu d'écriture pour lier en fait tous les sous-groupes entre eux. Et voilà, comment ça s'est passé? Il s'agissait en sorte de réaliser une espèce de cadavre exquis, pour ceux qui connaissent.
Oui.
Donc, un cadavre exquis, je pense que c'est avec... Bon, quelqu'un écrit quelques lignes et puis le suivant écrit les lignes suivantes. Ici, bon, c'était un méga cadavre ici dans le sens où on écrivait quand même 10 ou 15 lignes. Donc, et ensuite, un membre du sous-groupe commençait l'histoire. Donc, il écrivait ses 10 ou 15 lignes. Il envoie le texte au membre du sous-groupe suivant qui écrit à son tour la suite de l'histoire, toujours en respectant cette consigne de 10 à 15 lignes et plus quelques petites autres consignes qui avaient été clairement été communiquées à l'ensemble du collectif. Et ensuite, ben, à la fin, il y a deux volontaires qui ont repris le texte dans son intégralité pour ouais, effectuer les dernières retouches finales, lui donner un titre et ben, vous le présenter tel que vous le trouverez dans le recueil.
Donc ce texte est inséré dans le recueil, c'est ça?
Oui.
Ouais. D'accord. Et il porte un nom spécifique parce qu'effectivement, je n'ai pas le nom de ce texte.
Le nom, ben, c'est le titre que vous venez de dire. Je ne marche pas, je rêve.
Ah oui, d'accord, c'est ça. Je ne
C'est
marche
un
pas, je
autre
rêve
monde.
d'un autre monde. D'accord, très bien. Ok. Quelle est ton expérience, Chadia, un peu de ce texte? Donc, je ne marche pas, je rêve d'un autre monde.
Mon expérience avec ce texte est vraiment particulière. Pourquoi? Parce que je recevais les consignes par mail de ce texte et j'ai pris connaissance de ce texte et comment on peut le faire. Mais je n'ai pas eu le temps de lire au fil des semaines, je n'ai pas eu le temps donc de lire l'entièreté, je ne vais pas dire l'entièreté complète, mais tout ce qui était écrit jusqu'à mon tour. Donc moi, comme je n'étais pas trop libre, donc je suis restée la dernière personne qui a clôturé ce texte. Donc, en lisant le texte, franchement, je vais parler ici en tant que lectrice et pas en tant qu'écrivante. C'était, quand j'ai terminé, je suis arrivée au point où je devais commencer, c'était waouh, franchement, parce que
Super.
ils m'ont permis de voyager. C'est un voyage, franchement, c'est un voyage avec les idées de chacun, comment chacun a continué l'histoire, comment l'autre a pris quel côté. C'était vraiment une expérience très, très joyeuse. Malgré qu'on parle du confinement, je parle comment ils ont abordé le thème. Donc chacun a parlé de quelque chose de son ressenti, comment il voyait comment il voyait cette histoire, comment il a commencé, qu'est-ce qu'il a mis dedans comme émotion et tout ça, et tout ça. Donc moi, ce que j'ai aimé aussi ce que j'aime toujours dans ce texte collectif, c'est le fil conducteur là. Il y avait toujours un fil conducteur et qui fait vraiment une expérience inédite dans l'écriture. Donc nous, en tant qu'écrivants, écrivantes, dans la manière traditionnelle, en présentiel, avec les groupes, c'est un texte individuel et qu'on échange entre nous et on arrive à finaliser un texte et le mettre à la publication dans le groupe, dans le collectif. Mais là, c'était vraiment une expérience tout à fait nouvelle.
Et
Pourquoi?
quel était le fil conducteur? Parce que tu parlais d'un fil conducteur,
Oui,
quel
le fil
était-il?
conducteur, il fallait pas, parmi les consignes dont Lorenzo parlait, c'était aussi donc on parle on doit pas être hors sujet, on doit respecter le thème. Donc on
Oui.
parle tous du thème. Tourne autour de ce thème-là. Et le fil conducteur, c'est je dois commencer où mon collègue ou mon ami écrivant, écrivante a terminé. Donc où il a mis, où il a terminé, moi je dois commencer. Et là, je suis obligée de suivre
Le
ce qui
chemin,
était,
en fait,
oui, le
oui.
chemin. Donc le chemin, ça veut dire que moi je n'ai pas beaucoup d'espace d'imagination ou bien d'improvisation, mais quand même. Je dois réfléchir et improviser ou imaginer ou réfléchir à partir de ce point qui était avant que je commence à écrire. Avant de commencer mon écriture, je dois prendre ça en considération. Ça veut dire ils ont fini sur un point, je dois continuer ce point et mettre le point final de ce texte.
Mais une fois que je dois suivre le chemin qui a été emprunté par le précédent, après je peux prendre des chemins de traverse, bifurquer, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine?
En fait, moi, j'ai eu un gros souci parce que quand c'est arrivé à mon tour, je n'arrivais pas à continuer le texte parce que chaque texte était tellement différent de ce qui me précédait. J'avais du mal à me projeter dans le texte que j'avais devant moi. Il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà écrit avant moi et j'avais tous les textes de chaque personne qui avait écrit avant moi. Et j'avais du mal à continuer quoi que ce soit. Et donc, après 2 semaines, c'était resté en stand-by chez moi. J'ai dit à Isabelle, écoute, je laisse passer mon tour, je reviendrai après parce que là, je n'arrive pas à continuer. Je n'arrive pas à me projeter dans quoi que ce soit. Et donc, effectivement, on a passé mon tour. Je suis venue par après. donc, dans le deuxième tour. Et alors, à ce moment-là, j'ai pu continuer. Et j'ai en fait, ce que j'ai fait, je n'ai pas regardé ce qui précédait. J'ai juste regardé la personne qui avait écrit juste avant moi. J'ai dit, je ne vais pas regarder tout le texte. Je ne vais pas lire tout le texte. C'est un peu ma prête cadavreski. Je vais juste continuer la personne qui était avant moi. Et là, j'ai pu continuer. Mais je suis certaine que si j'avais lu tout le texte, j'aurais encore eu du mal à continuer.
Ça aurait été plus difficile.
C'était énormément de difficulté. Et là, voilà, moi, j'ai vraiment fait de cette manière-là. J'ai vu juste la dernière personne qui avait écrit avant moi.
Et pour d'accord. Et pour toi, Regina, est-ce que ça a bien marché, je rêve d'un autre monde?
Oh, honnêtement, je dois dire, j'étais très excitée de l'idée au départ, mais j'étais aussi, je crois que j'étais l'avant-dernière. Et quand c'est arrivé, l'excitation était finie. Et voilà. Et c'est vrai que lire le texte en entier, c'était particulier, ce patchwork.
Le patchwork, voilà.
Patchwork.
Oui.
Oui, c'était la marche, mais c'était être en marche, oui. Mais à part ça, je voyais pas trop. Voilà. Mais peut-être Amanda voulait dire quelque chose.
Amanda.
Ah oui, j'ai eu plus de chance alors parce que à mon tour, j'ai bien réussi à continuer. Par contre, ça a été une expérience très intéressante parce que j'ai dû adapter mon écriture au texte précédent, mais tout en gardant l'originalité. Donc, ça a été un exercice bien intéressant et inédit pour moi de suivre les rythmes de d'autres écrivains ou écrivantes et garder ma originalité. C'est ça l'expérience intéressante que j'ai vécue.
Donc, ben oui, c'est sûr que c'est une chouette expérience, cadavreski. Et qui, donc, vous avez été à combien à travailler sur ce texte en réalité?
20,
c'est ça, la totalité du groupe, alors. Hein. Mm-hmm. Alors, c'est le plus difficile, peut-être, c'est comme tu disais, Regina, toi, tu étais l'avant-dernière, mais peut-être c'est le dernier qui... Ben, peut-être que c'était pour lui le plus difficile. Qui a été le dernier ou le plus facile, je ne sais pas. Sur ton expérience, les derniers seront les premiers.
c'est vrai que ce n'était pas facile pour moi. Quand ils m'ont dit, on te fait confiance de clôturer le texte collectif, j'ai dit, ah, oh, là, ça fait peur. Ça fait peur, surtout quand j'ai lu l'avant-dernier. Maintenant, je sais que Regina, c'est elle qui m'a mis dans ce chemin-là de ce que j'ai écrit. Et là, je suis restée aussi comme Géraldine, quand même un peu de temps à réfléchir comment je vais terminer ça. Il y a un poids qui vient de s'installer. Donc, j'ai dit, je vais réfléchir sur la question. Et j'étais contente d'avoir clôturé avec les idées que j'ai mises parce que... j'ai parlé d'une catégorie de personnes qui étaient vraiment oubliées presque dans le confinement. Et ben, c'était les personnes sans abri qui étaient vraiment parmi les oubliées du confinement. Et je l'ai mis d'une manière un peu humour noir, si vous voulez. Et j'ai voulu vraiment les mettre en valeur parce que c'est pas juste qu'ils restent vraiment dans l'oubliette dans une telle période difficile qu'on a vécu tous et qu'on vit toujours.
D'accord. Alors, je propose d'entendre, d'écouter vos textes. Lorenzo va commencer par un texte qui s'appelle « La couronne ». Lorenzo, c'est à toi.
Il était une fleur sur laquelle une couronne vint poser, sa délicate attention. « Bonjour, lui dis-je chaleureusement. La couronne apeurée voltigea et posa sur un charme une meilleure attention. « Ne t'en va pas, je ne veux pas te capturer, ni souffler tes plumes. » La couronne, dubitative, murmura. « C'est étrange. »« Qu'est-ce qui est étrange ?» lui demandai-je. La couronne me répondit ainsi. « Alors que tout le monde porte un masque pour me tromper, tu convoites mes plumes pour l'écrire et inspire ma confiance. » Je répondis à mon tour. « La fleur sur laquelle tu choisis de te poser, selon son humeur, réserve ou révèle son bouquet. » Je tendis les bras vers elle et la couronne voltigea à nouveau de fleur en fleur. Ce fut le temps à souffler toutes ses plumes. Ne pouvant plus voler, la couronne se posa une dernière fois et laissa en signe de paix son empreinte dans le cœur de l'homme qu'elle aime.
Voilà, merci Lorenzo. Je suppose que c'est un texte qui est aussi de toi.
Je vais vous lire une poésie de Marianne Perrault, « J'ai peur de toi ». J'ai peur de toi dans mon monde 40 fois 60 rétréci, où je fais mes 100 pas à l'abri, sans barrière ni ennemi. Je suis préservée, sauvée, ne viens pas me perturber. J'ai peur de toi, de cet univers qui m'attend, des passants, des mains amies, de la violence au quotidien. Fiche-moi la paix, reste à distance, reste bien de ton côté. Il était une fois, dehors la lutte, café vite pris, vélo en slalom, boum boum, mon cœur tout le temps en sursaut. La banque, les sous et le supermarché, parcours du combattant tous les jours, et moi derrière. Oublié. Et puis, confinement arrive. Je l'ai pris comme une prison. Puis le printemps s'annonce. Les nuits deviennent étoilées et j'ai enfin pris le temps de les regarder. Jusqu'à hier, j'étais peinarde, souveraine dans mon royaume isolé. Mes désirs étaient des lois. Personne ne les contestait. Toi, de l'autre côté des ondes, n'allais pas me contrarier. J'ai peur de toi, de tous les autres, qui se comptent par milliards, méchants, gentils, tous mélangés. Comment deviner ce que tu caches, si même toi te semble l'ignorer? Se déconfiner, vaste blague. Et si l'on dit de te méfier, quand la crainte rôde, t'envahit de tous côtés, même si je t'aime, je te fuis. Reste bien de ton côté.
Alors, Géraldine va nous lire son texte qui s'appelle No Diary.
Oui, Géraldine. En fait, je vais lire quelques passages de mon texte. Ce texte oui. A été écrit à partir du confinement dans un petit agenda noir. Et chaque jour, j'écrivais une phrase, un mot, deux, trois lignes par rapport à ce que je ressentais à ce moment-là. La même, et donc ça fait un autre diary, donc il y a plusieurs étapes, ça commence, et voilà, je vais prendre juste quelques jours comme ça où j'ai écrit certaines choses, donc ça peut paraître voilà. Un peu bizarre parce que ça n'est pas très cohérent, mais voilà, je vais vous dire. 30 mars, bientôt 4 semaines, plutôt 22 jours de silence, de peur, de mort, d'absence. Alors j'ai fait de ma solitude une amie qui partage mes jours et mes nuits. Le confinement n'est plus mon ennemi. Les journées passent vite, mais le temps est long, je ne comprends pas. L'espace-temps infini me surprend. Suis-je la seule à ressentir tout ça? 8 avril. Je compte les pas qui me séparent de la porte du jardin à la fenêtre du salon. 18 pas. 36 pas aller-retour, que j'ai fait 10 fois, 20 fois, 100 fois dans la journée. 18 avril. Le gouvernement autorise l'ouverture des jardinières et des bricots. Super. Les quartiers populaires, les soi-disant non-détaux, à 6 à 8 personnes dans 40 mètres carrés, vont pouvoir fleurir leur jardin imaginaire, casser les murs, agrandir leur rêve. 20 avril. Je m'habitue à mon silence. Je ne regarde plus la télévision, un peu marre de ces discours contradictoires. Je pense à l'Italie, n'a pas pris mon village. N'ayant pas de date exacte de sortie, je profite du jardin, de la lecture. Je médite, je range, je nettoie. Je remplis vite de la vaisselle. Je téléphone en vidéoconférence sans apéritif. Je découvre enfin Netflix. Je découvre Christophe et Aline. Et je rêve de serrer dans mes bras mon fils. 25 avril. Qui se souviendra de ces guerrières, de ces soldats d'aujourd'hui qui se battent pour sauver des vies et qu'on applaudit tous les jours à 20h? 28 avril. Nous avons un nouveau scientifique, spécialiste du COVID-19. Trump a trouvé le remède du miracle. Je me demande à quoi il carbure. Ma commune fait partie des trois communes les plus touchées de Bruxelles, une des plus populaires aussi. Chaque soir, des nouveaux chiffres qui ne veulent plus rien dire. Ces morts qu'on déshumanise pour deviner des statistiques. Notre société est un échec total. 7 mai. Ce soir, c'est la pleine lune. J'aime ce temps de la journée entre chien et loup. Elle éclaire mon jardin d'une étrange lumière. La lune est majestueuse, irrévérencieuse, mais aussi jalouse de cette terre malade mais vivante. 11 mai, jour J. Les magasins sont ouverts. 29 mai. Une nouvelle fleur pousse entre les trottoirs, dans les fonds marins et ailleurs. Des masques de toutes les couleurs et les gants qui les accompagnent. On m'a fait rêver d'un monde meilleur. Ce n'était qu'un mirage. Je me réveille dans un cauchemar. 9 juin, j'arrête d'écrire.
Merci beaucoup. Alors voilà, donc on va entendre maintenant Regina qui va nous parler de son texte « Ma méditation ».
Quand j'arrache l'herbe dans mon jardin. Quand j'arrache l'herbe dans mon jardin. Quand j'arrache l'herbe dans mon jardin, c'est ma méditation. Je me penche en avant, je m'approche de la terre, en allongeant jambes et bras et toute ma colonne vertébrale. Je commence timidement, en fouillant et cherchant la petite plante persévérante que je n'avais pas encore vue. J'arrache les herbes pour découvrir le trésor, la plante précieuse tant attendue, débordante de vertu. Quand j'arrache l'herbe dans mon jardin, quand j'arrache l'herbe dans mon jardin, quand j'arrache l'herbe dans mon jardin, c'est ma méditation. Je broute à la main les herbes tout autour et déracine carrément celles qui sont trop drues. L'attention que je porte à la minuscule plante me repose l'esprit et me charge d'énergie. Je sens le vent sur la peau. J'écoute les sons. J'entends les chants magnifiques que nous font tous les jours les oiseaux. Les arômes des herbes fraîches me chatouillent le nez. J'hume le terre comme un sanglier. Quand j'arrache l'herbe de mon jardin, quand j'ai fait place à la nouvelle variété pour qu'elle puisse se développer, quand je plonge pour rencontrer la beauté de la diversité, c'est ma méditation.
Eh bien voilà, Regina, comme quoi on peut lire en chantant. Alors, Amanda, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ah, je trouve magnifique. Et surtout quand chaque auteur et autrice lit son propre texte, ça donne l'intonation, ça donne le rythme qu'il veut expresser. Donc, c'est vraiment bien.
C'est une autre dimension, hein?
Oui.
Une toute autre dimension. Super. Eh bien voilà, après les petites chansonnettes de Regina, on va entendre une petite pause musicale. Dont le titre n'est pas très gai, on va en parler après. On va tous crever en 2020. Heureusement, il ne reste plus beaucoup de jours. De Didier Super.
Cette chanson est dédicacée à la fin du monde et à la troisième guerre mondiale. Youpi! C'est la fête! On va tous crever, y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, la fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Ouais. Aujourd'hui y a que les très très vieux qui ont encore l'espoir de mourir de vieillesse. Les enfants s'ils viennent pas au monde bientôt, ils sauront jamais rien faire avec des Legos. Oui, on va tous crever, on va tous crever, y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. C'est la vengeance du bon Dieu, c'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah. En tout cas eux, comme ils sont gentils, soit ils vont pas mourir, soit s'ils si meurent ils auront pas mal. Ouais, on va tous crever, on va tous crever, c'est la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Oussama et George W et les Israéliens qui se battent contre les Juifs. Que là-dedans y'en a, c'est pas des Juifs, c'est des Arabes. Et nous on n'y comprend rien mais on va quand même se faire taper. Et puis y'a les Martiens, ils vont nous jeter des boules de feu exprès pour que ça nous brûle. Et puis y'a le lapin géant, bouffeur de planètes. Il bouffe des planètes alors qu'il y a des gens dessus. Et du coup c'est pas très malade de sa part. Ouais, on va tous crever, on va tous crever, y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, mais des fois c'est mieux de parler d'autre chose.
Qu'est-ce qui vous a inspiré, quel a été pour vous l'impact du confinement, bah, d'abord évidemment sur vous et puis sur les gens qui vous entourent, sur les citoyens. Donc comment voyez-vous cet impact sur votre propre personne et sur peut-être les gens dont vous avez parlé dans vos textes?
Bah, tout d'abord, ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est les échanges qu'on a eus avec Sophie et Philippe dans notre petit sous-groupe. Et bon, ce qui m'a inspiré aussi, c'est la nature, parce que moi, j'ai eu la chance d'être confinée, pas à Bruxelles, mais un peu en dehors de la ville, dans une maison avec un jardin et avec un petit bosquet derrière. Et, je pouvais sortir quand je voulais. Donc, évidemment, la nature qui était en pleine éclosion à ce moment-là m'a inspiré beaucoup, m'a ressourcé aussi beaucoup. Mais de l'autre côté aussi, je pense... la révolte qui est déjà en moi envers cette société capitaliste.
Le mot est lâché.
C'est quand même pas manifesté plus fortement parce que les événements de la pandémie mettre vraiment la loupe sur les inégalités. Et voilà, c'était sûrement une nécessité aussi de parler de ça.
Mm-hmm. Donc, inégalité, révolte, capitalisme, c'est clair qu'il y a eu des impacts multidimensionnels. Géraldine, Shadia, Amanda, Lorenzo, oui. Géraldine.
Oui, Moi, ce qui m'a surtout troublée au début du confinement, parce que moi aussi j'ai la chance d'avoir une maison et un jardin, je sais qu'il était très très calme dans mon quartier, dans ce quartier où j'habite, moi, il était très très calme. Et du coup, j'étais étonnée de voir ce silence qu'il y avait dans les rues. C'était surréaliste. Et puis, je voyais mon jardin qui se développait, l'herbe qui poussait, les rosiers qui s'ouvraient.
L'herbe n'était pas confinée.
C'était pas permis, les fleurs sauvages. Et là, c'était quelque chose. Et c'était ce silence qu'il y avait à côté de cette nature. C'était quelque chose de vraiment de surréaliste. Et parfois, je sortais sur la rue, de voir la rue. Il n'y avait personne dans la rue. Oui. C'était incroyable. J'avais l'impression qu'on ne respirait plus, il n'y avait plus d'air en fait. L'impression que oui, l'air ne respirait plus. Je ne sais pas expliquer ça. Et je me disais, mais. Et on parlait tout le temps du monde d'après, meilleur et compagnie, etc. Et je me dis, ça va être formidable. Après, la solidarité va être là. On est en train de construire quelque chose de formidable et ça plouf. C'est comme, je sais pas comment on appelle ce plat où tout retombe à un moment donné quand on sort du four, quand c'est pas bien fait. C'est vraiment ça. Les inégalités sont là, c'est encore pire. Personne n'en parle, quasiment personne. Les associations qui sont derrière, les gens qui ont du mal, qui rament pour faire quelque chose. Ben, c'est horrible, moi, je trouve. Et alors, c'est une manière où les gens sont désabusés. Ils n'ont plus d'énergie, en fait. Oui, on râle encore un peu. Oui, on est contre tel truc qu'on vient de dire, ou ceci, là. Mais on nous mâche tout le temps la même chose que, en fait, on en a beaucoup de leçons de la télévision, où on entend ce qu'ils disent, parce que toutes les chaînes disent la même chose, et on n'entend plus que ça. Et donc, c'est le regard des enfants aussi. Parce que, bon, il y a beaucoup d'enfants dans mon quartier, et ce regard est très différent du regard d'avant le mois de mars. Et ça, c'est triste.
En tous les cas, à vous entendre, Géraldine et Regina, j'ai envie de créer un recueil dont le titre serait « L'herbe n'est pas confinée ». Oui, Amanda.
Moi, je me suis concentrée sur les impacts psychologiques du confinement. Donc, je me suis inspirée dans ce contexte-là pour écrire mon test. Parce que mes entourages me disaient souvent que c'était insupportable de rester chez eux, de rester toute seule, d'être avec sa propre compagnie. Donc, je me posais la question pourquoi. Et j'ai pas trouvé vraiment la réponse, mais je suppose que les rythmes de vie moderne est tellement surchargé, tellement rempli des activités que quand nous sommes trouvés dans cette situation, on ne sait pas quoi faire. Et donc, on a cette sensation de vide, d'angoisse, d'anxiété. Mm-hmm. Donc, je me suis inspirée de cette constatation pour écrire mon test et pour réfléchir. Est-ce que le confinement... pas forcément les confinements, mais est-ce que avoir le temps d'être avec soi-même doit être un motif d'angoisse ou de joie, un moment de réfléchir et de se connaître mieux? Donc, c'est ça ma réflexion.
Oui, oui. Ça me fait penser, est-ce que pour finir le confinement, l'enfer, c'est pas les autres, c'est soi, ou bien c'est le paradis, en fait? Shadia, oui. Est-ce que le confinement, c'est l'enfer pour soi ou c'est le paradis pour soi?
Moi, je veux te dire que le moment qu'on a vécu, où on vit toujours, c'est un paradoxe, en fait, en soi. Donc, il y a toujours... il y a le bon, il y a le mauvais. Donc, en plein confinement, moi, j'ai tiré des leçons de ça. C'est un moment de pause, en fait. Un moment de rester avec soi, de se poser les bonnes questions, d'arrêter de courir à gauche, à droite, envoyer nos habitudes au quotidien changer, nos habitudes chambouler. Et comment on peut gérer ça? Aussi, je parle d'un défi, un grand défi vis-à-vis de nous. Comment on pourrait vraiment avancer avec ce qu'on a? On se pose les questions de est-ce qu'on suit le bon chemin? Est-ce qu'on a fait quelque chose de travers pour arriver là? Moi, juste dans mon texte, qui n'est pas une photo calquée, mais qui peut être l'histoire de chaque personne, chaque femme qui vit deux vies virtuelles, comme je la vis en ce moment. Donc, la nature qui a pris le dessus et qui prend toujours le dessus, elle est plus forte que nous. Malgré ce qu'on a fait, malgré tous les abus qu'on a fait, on voit dans la rue vraiment la réussite et que la nature gagne à la fin. je vois des oiseaux, je vois la nature qui fleurit en plein
et même mars. Des animaux qui sont dans la forêt qui viennent dans la ville.
Tout à fait, c'est ça ce que j'ai mis dans mon texte, les oiseaux qui accaparent la rue en sécurité au moment où on n'était pas en sécurité. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de questions aussi auxquelles qui méritaient de réponses. Et je trouve que c'est un moment malgré qui est vraiment pénible et ne manquait pas de points positifs. Si par exemple on voit juste le stress qui a disparu dans notre vie, les femmes qui n'avaient plus de fausses couches à cause de confinement, les vols qui ont baissé à cause du confinement. Donc là, on voit que comment on vivait avant le confinement, comment notre vie d'avant n'est plus la même maintenant. Donc moi, je tire toujours les points positifs en pleine crise pour rester aussi optimiste. Il n'y a pas que les points négatifs. C'est vrai que c'est une période très, très difficile et qui n'est pas facile pour personne. Mais aussi, il faut le prendre aussi le bon côté. Comme on dit toujours, il faut voir la petite lumière dans l'obscurité d'un tableau.
Ouais.
C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est ça qui m'a stimulée à écrire et à laisser une trace dans mon texte. Normalement, je suis très poétique dans mes écrits. Mais ce texte-là est vraiment tout à fait différent. C'est quelque chose de comme une documentation, en fait. J'ai voulu laisser une trace avec tout ce que j'ai vécu, avec les émotions que j'ai ressenties, avec tout ça, et qui peut vraiment être utile pour les lecteurs. Lectrices.
Eh bien, on est impatients de pouvoir lire tout ça dans le recueil. Alors, Lorenzo, l'impact pour toi, ça a été comment ?
Je vais peut-être plutôt parler en fait de ce qui m'a inspiré alors.
Oui, pourquoi pas. Oui.
Vous avez en fait évoqué d'abord cette question-là. Mais, en fait, comme l'a dit Shadia, pour moi il y a deux sources en fait un peu d'inspiration. Donc la première, on va dire, c'est la positive. C'est un peu le ralentissement qui était imposé par le confinement qui a permis pour moi en fait un retour à l'essentiel. En tout cas, pour ceux, je pense, qui ont bien voulu accueillir le confinement de cette façon-là, parce qu'on n'a pas le choix, on le prend de pleine face, et alors ça se passe mal, ou alors on essaye de voir en fait comment on peut retourner un peu ça à notre avantage. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont aussi pris de cette façon-là, et ça a permis peut-être de se recentrer un peu plus sur soi. Voilà, en place de, comme l'a dit Shadia, de courir toujours à gauche, à droite et finalement être toujours dispersé. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect positif. Et ensuite, il y a l'aspect, bon, je dirais ça, c'est pas vraiment négatif, mais en fait, c'est la vision.
L'autre face.
L'autre face, voilà. Donc moi, c'est toutes les mesures en fait restrictives, coercitives, le prétexte du corona évoqué à tout bout de champ pour imposer abusivement toute une série de choses à tout le monde, pour des raisons qui ont bien plus à voir avec le contrôle des personnes, de l'ingénierie sociale, qu'avec la protection sanitaire. Et donc là, l'indignation, la révolte que cela provoque et qui pousse incontestablement à écrire pour dénoncer cela.
Voilà, très bien. Alors, je voudrais aborder un autre aspect. La liberté est-elle soumise ou insubordonnée au Covid, hein? Quel est un petit peu votre avis là-dessus? Est-ce que la liberté est-elle insubordonnée au Covid, Lorenzo?
Donc, pour répondre à cette question-là, moi, j'aimerais bien partir en fait de certains passages de texte qui se trouvent dans la compilation.
Oui.
Alors, par exemple, dans le texte « Au fond des tours », donc on peut lire donc le passage suivant. « La politique bâillonne la foule et retient dans un masque les soubresauts de la liberté. » Mais, en fait, on vit actuellement une situation où nous sommes bombardés de mesures restrictives et le masque est pour moi la marque de cette oppression. Ensuite, il y a un autre passage aussi, qui provient toujours du texte « Au fond des tours ». Une puce à l'oreille et le cellulaire entre les mains d'Android transfère aux banques des intérêts. Ben, on est déjà bien au fait, en fait, des données personnelles qu'on nous chaparde grâce aux cookies, aux autres programmes qui sont transférés à des banques de données pour être utiliser ensuite, mais à quelle fin? Bon, pour mieux nous suggérer des biens de consommation, pour nous proposer des biens sur base de notre comportement sur le web. Ben, ces suggestions, en fait, elles nous incitent à continuer à consommer comme nous sommes habitués à le faire. Elles nous cantonnent, en fait, dans nos habitudes et finalement, ben, elles nous enferment. Mais maintenant, en fait, on franchit une étape supplémentaire. On parle de Covid Pass, de passeport électronique qui permet de vérifier, hein, qui permettra en fait de vérifier que vous êtes bien en ordre de vaccination. Hein. Donc, les données, elles seront utilisées pour mieux nous contrôler. Bon, voilà. La localisation à l'aide du téléphone, voilà, donc, permet de recenser toutes vos allées et venues, de savoir combien de temps vous avez passé à tel ou tel endroit, à quelle heure vous y êtes allé. Moi, ce que je dis, ben voilà, lorsque vous êtes épié ainsi en permanence, ben c'est probablement
on a plus de liberté
à configurer votre liberté.
Oui, la liberté configurée. Regina, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, merci Lorenzo, parce que voilà, je pense que c'est important de nommer les choses aussi. Et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce que maintenant, il y a des mesures qui sont prises qui sont peut-être importantes maintenant. Mais combien de temps vont-ils rester? Par exemple, les rassemblements dans l'espace public, empêcher les fêtes, la consommation de l'alcool en étant l'espace public, fermeture de frontières pour la migration. Donc, c'est des choses qui pourraient se glisser et devenir anormales. Et je pense qu'il va falloir être très vigilant. Parce que justement, quand il n'y a pas de fin nette, bah, est-ce que ça va s'étendre et s'églisser dans les lois sans qu'on s'en aperçoive? C'est le grand risque.
Oui, notre liberté est-elle en danger? Alors, Géraldine, Shadia ou Amanda?
Oui, ben,
Géraldine,
notre
oui.
Notre liberté a toujours été en danger. Et on s'en rend compte maintenant. Mais voilà, on n'a jamais eu la liberté d'être libre, vraiment. Mais on vivait avec, parce qu'on avait l'impression d'être libre. Mais maintenant, il y a tout ce qui se met là maintenant et qu'on entend, il y a tout ce qui me surprend. C'est que je regarde la télévision, on parle des fêtes. On ne peut pas se mettre ensemble pour les fêtes. Mais on parle des cadeaux et alors on voit plein de publicités, on voit les repas avec les dates et ceci et cela. Mais moi à Noël, je peux passer toute seule ou avec mon fils, c'est tout. Je veux dire, alors quoi ça sert de, qu'on nous matraque de fausses joies par la télévision? Et c'est ça qui est triste, tout ce message qui passe. Est-ce qu'il n'y a plus rien nulle part? Est-ce qu'il n'y a que le Covid partout? Est-ce qu'il n'y a plus de guerre? Est-ce qu'il n'y a plus rien nulle part? On n'entend plus rien. On ne parle plus du Covid.
Oui,
les chaînes, c'est le même vocabulaire pour prendre à 7h, à 7h30, 8h, 8h30, n'importe quel journal de télévision. Ce sont les mêmes mots qu'on dit. C'est le même sourire. Et c'est ça qui. On nous laisse plus le temps de réfléchir, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs?
Oui, on n'entend plus parler de la guerre en Éthiopie ou au Yémen, par exemple.
Voilà, c'est-à-dire, on n'entend plus parler des migrants, on n'entend plus parler de tout ça. Il n'y en a plus. Tout s'est arrêté, à part le Covid. C'est ça qui m'interpelle, moi, en fait. C'est vraiment ce lavage de cerveau qu'on nous fait, mais tout le temps, parce que du coup, on ne pense plus qu'au Covid, on ne pense plus qu'au vaccin, on ne pense plus qu'à ceci, on ne pense plus qu'à notre liberté de dire est-ce que je peux sortir, je ne peux pas sortir, etc. Et on ne pense plus au reste du monde.
On voit peut-être du mauvais côté de la lorgnette, comme on dit. Pour faire résonner cette question, effectivement, la liberté est-elle insubordonnée au Covid, je vous propose d'écouter un nouveau style de déclamation poétique, une déclamation en musique inaugurée par un membre du collectif Démasqué. Et ce morceau, donc déclamé en musique, s'intitule Contact, première partie, Invasion Dreams Against the Machine. Écoutons.
Le contact s'est défendu, présentant prétendument des risques infectieux. Il est bien plus sûr de réaliser nos opérations à distance, en laissant aux machines le soin de cette tâche. Avec leur programme infesté de virus portant de mouches à requis chapins, vos données recensent nos allées et venues, et puis nos déplacements épaules dans un lien inconséquence. Les puces sont introduites dans notre appareil digital où elles violent notre intimité. Des poupons de des logiciels qui se nourrissent dans nos mémoires. Des fenêtres sous un empestiment. Elles affichent des pubs, des rapports, des pipos. Sans su, des vampires et leurs chants seraient le guet de derrière l'écran. Ils attendent que vous le déverrouillez en esquissant dans le sang. Le front, la tête, la main. Et dans le nord, ils se penchent sous la brise et courant. En l'envoi des désirs, en l'enfer de l'homme, votre identité contre la vie virtuelle exsangue est désormais légale et la promise du courant glacial dans le circuit de zombies. En trace de son sang, des pistes sur un disque de pineuse pénètrent par tous les ports. Bien fixé, des applications et crucifié la liberté. Votre importance, votre existence, à toutes les cartes qui trouvent dans ce système, l'air fatigue. Et après avoir écouté ce morceau, donc, dont je rappelle le titre Contact, première partie, Invasion, Dreams Against the Machine, je vous propose, enfin, nous vous proposons un petit concours. Voilà, pour une fois, à vous de démasquer l'auteur de cette déclamation. Et le premier auditeur ou la première auditrice qui donnera la réponse correcte gagnera un exemplaire du recueil donc de notre collectif Démasqué, donc du recueil mars 2020. Alors, les réponses sont à envoyer par mail à l'adresse suivante, donc virtuelle, je répète, virtuelle, collectif au pluriel et décrit au pluriel, .org. Et en plus, voilà, donc si vous envoyez votre mail, ben c'est gratuit, il n'y aura pas de surtarification comme c'est le cas dans la plupart des concours. En même temps, vous recevrez un beau smiley comme guise de réponse. Voilà. Donc, je vous invite à tous participer à ce concours qui est l'auteur ou l'autrice du texte que vous venez d'entendre. Voilà. Alors, peut-être encore quelques petites lectures. Voilà. Est-ce que Regina, tu veux lire aussi Je t'imagine de Mélissa Vico?
Oui, c'est important pour moi de lire ce texte de Mélissa parce que justement, elle parle de cette inégalité et ces réalités parallèles dans lesquelles on peut vivre. Je pense souvent à toi. Depuis la maison avec jardin où je suis confinée, je t'imagine allongée sur le lit de ta chambre d'hôtel piteux parisien. Moi, bien installée au fond d'une chaise à roulette entre deux visio-réunions, 10 mails, 3 appels, tantôt le bureau en haut, tantôt sur la terrasse, tantôt sur la table du salon. Je t'imagine assis sur ton lit, attendant que le temps passe. En prenant l'apéro avec mes co-confinés, sous la lumière descendante du printemps qui, cette année, ironie ou cruauté, a choisi de réellement tenir chaud. En dînant un plat préparé avec amour, tout en regardant la télé, je pense à toi, seul, dans ta chambre d'hôtel. Je pense à toi. Un repas dans une barquette déposée par le SAMU social, dans ta chambre, sans télé, sans internet. Un jour sur toujours le même SMS. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Nous échangeons parfois 3, parfois 10 phrases. Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin, barrière de la langue. C'est différent quand nous nous voyons, nos deux corps présents, même sans parler, c'est être ensemble. Quand je t'ai rencontré, il y a plus d'un an, tu étais déjà en confinement. L'aide sociale à l'enfance t'avait mise à l'abri dans une chambre d'un autre hôtel piteux en Seine-Saint-Denis, où grouillaient des cafards sur ton matelas à même le sol. Pendant presque un an, tu es resté là, à attendre. Attendre que quelqu'un vienne t'en sortir, te mettre à l'école, te donner quelque chose qui démarrerait cette vie pleine d'espoir que tu imaginais en traversant un quart du monde pour arriver en France, terre. Tu étais choqué. Tu me disais souvent de ton éducatrice, elle s'en fout. Elle s'en fout de nous. Tout le monde s'en fout. Je ne sais pas répondre à ça. Confortablement installée sur mon fauteuil, pianotant sur mon ordinateur, je t'imagine qu'on m'attend en pleine journée, attendant que ça passe, ne sachant pas ce que ça est. Cherchant mes mots, creusant mon corps, le cœur voilé, je t'espère dans un mois, un an, 10 ans, libre.
Merci Regina. Donc là, on va entendre aussi un texte de Rosetta, quelque part en Italie, dans mes montagnes Molisane.
Extrait de Quelque part en Italie, dans mes montagnes Molisane. Écrit et lu par Rosetta Gianfelice. C'est terrible quand on y pense. Je ne veux pas y penser, mais je ne pense qu'à ça. Alors, perdu dans cet océan trouble et agité, il ne me reste qu'un seul repère, moi-même. Puisque je n'ai aucune prise sur l'extérieur, je vais cultiver mon jardin intérieur. Depuis le début de cette crise, les informations gouvernementales nous enjoignent d'être égoïstes. En Italie, du moins, où nous écoutions principalement la RAI, chaîne nationale italienne. Restez chez vous, occupez-vous de vous, de vos enfants. Peignez, écrivez, occupez-vous de votre maison, de votre jardin, mais restez à la maison. Le slogan du décret ministériel « Io resto a casa » est divulgué sur tous les supports possibles et imaginables quand il n'est pas martelé à la radio et à la télévision. Dans ces conditions, il ne me reste plus qu'à obtempérer. Je m'occupe de moi, de mon bien-être. Entre deux méditations, je suis des cours d'ornithologie. La matière est dense, mais la jante ailée m'a toujours fascinée. À Bruxelles, j'ai installé des nichoirs partout dans notre jardin. Nous pouvons apercevoir et étudier même des espèces dont la présence était surprenante dans notre région il y a peu de temps, comme les faucons, les perruches à collier, les geais des chênes, les bouvreuils pivoines ou les verdiers d'Europe. C'est très reposant d'observer les oiseaux. Certains jours, je vais sur YouTube et j'écoute les lanceurs et les lanceuses d'alerte, qui, comme leur nom l'indique, nous mettent en garde contre certaines mesures politiques et ou médicales. Là, je ne sais pas quoi en penser parce qu'ils et elles me mettent d'humeur chagrine parfois. Bref, tout comme écouter les médias, point trop d'alerte n'en faut. D'une part, mes cours d'ornitho, mes méditations me libèrent de la lourdeur environnante. Je reviens à moi, j'aligne mon corps, mon âme et mon esprit. J'inspire, j'expire, je suis dans un bain de lumière. Et d'autre part, ces informateurs et ces informatrices m'enjoignent d'être vigilante, de refuser de porter un masque ou d'être testée. Nous devrions faire attention, tout ça n'est qu'un moyen de nous contrôler. Un faux ou un tox. Enfin, qu'est-ce qui va sortir de ce confinement? Extrait de Rouge, écrit par Olivier Schneider de Pouhon.
Et maintenant aussi un texte d'Olivier, un texte qui s'intitule Rouge, d'Olivier Schneider de Pouhon.
Le vaste monde est assigné à résidence pour cause de virus pandémique. Il est question d'une drôle de couronne, sans aucun lien avec celle qui accompagne les galettes des rois. À force de tâtonner à travers les semi-certitudes médicales, les idées concurrentes, les labos hyperactifs, les pouvoirs en place en viennent à jouer avec nos nerfs. Le lundi, on nous recommande de porter un masque, le mardi, c'est caduc. Il faudrait savoir. Et ne pas oublier que se masquer, c'est enfermer son visage, le retrancher à l'écart de la société. Pour le temps qu'il faudra, soit, mais nous n'avons qu'un visage pour exister aux yeux des autres. Si on cache les traits de ce visage, on enlève une couleur à la palette du monde. Et nul ne sait quand on pourra se révéler à nouveau. Nul ne sait qui est habilité à mettre fin à ce jeu de Colin Maillard. En quittant la ville ce matin, j'ai vu des volets fermés, des débris de journaux agités par le vent dans les rues comme n'importe quel autre jour. Pas un seul passant. J'ai mordu dans le fruit mélancolique du confinement pour en recracher un morceau. Je fonce vers ce que je pourrais appeler pompeusement ma résidence secondaire. En vrai, une cabane au sommet d'une colline dans les Ardennes, que j'occupe quand je veux, sans loyer, pour autant que je veille à ce que son état ne se dégrade pas indéfiniment. Je débarque, je réside, je nettoie et je pars sans me retourner. Accroché à la cabane à l'extérieur, est cloué à un masque démoniaque, grimaçant dont je ne m'explique pas la présence même après tant d'années. Pourquoi est-il interdit de se déplacer d'une ville à l'autre? Quelque chose m'échappe. Une énigme m'accompagne, installée à ma droite sur la place du mort. Faut-il craindre qu'avec nos voitures transformées en cavaliers de l'apocalypse, nous ne trimballions avec nous accrochés à nos carrosseries de pleines cargaisons de virus?
Voilà, quelles sont vos réactions par rapport à ces différents textes? Géraldine.
Moi, c'est le texte de Mélissa, en fait. Eh bien, ça se rapproche un peu de ce que je disais sur les migrants et tout ce qui se passe actuellement, qui sont vraiment oubliés comme les SDF. Voilà, ces gens-là, ils ne font pas partie du Covid, ils ne font pas rien. Ils passent à travers les mailles, j'en sais rien. Voilà, tout ça, ça se passe très bon comme ça. Et on ne le voit pas, on ne veut pas le voir. Et ce texte de Mélissa, eh bien, ça nous remet un peu les pendules à l'heure et de voir ce qui est. La réalité aussi, hein. Ça, j'aime beaucoup ce texte.
Alors, je vous propose aussi une petite pause musicale maintenant, qui est une parodie qui s'appelle Confinement de Lisa Pariente.
J'en ai marre, ça fait 3 semaines, c'est trop là, tout me manque. Même les trucs que j'aime pas, l'odeur du métro, les mecs sans déo, tous ces cons qui restent assis quand le métro est complètement bondé. La douce mélodie des klaxons en journée, les mégots par terre par milliers. Ces mecs qui nous sifflaient quand on se baladait, tous ces faux numéros donnés. Je voudrais aller dehors. pas être contaminé, mais on se fait tellement chier, tellement chier, tellement chier. Netflix, j'ai terminé, j'ai plus rien à voir, une pauvre série. Je serais même prête à voir plus belle la vie, j'en ai marre. On tourne en rond, on fait que ça. Regarde-toi, ça fait 30 fois que tu laves ça. On n'a plus d'hygiène, on s'habille tout pareil. Tu ferais mieux d'éloigner ces ciseaux pour ma santé capillaire. Quand ce sera terminé, j'aurai tellement mangé, je passerai même plus ma porte d'entrée. Je voudrais aller dehors, respirer l'air pollué. Ça y est, j'en ai assez, ne me retiens pas, je sors. Ok, je vais rester, je veux pas être contaminée, mais on se fait tellement chier, tellement chier, tellement chier. Aucune activité, je fais genre je suis motivée pour faire du sport, mais j'enchaîne pas trois ponts, je suis claquée au sol.
Alors, effectivement, donc à ce stade-ci, que pourrait-on dire? Est-ce que vous avez constaté, on en a un petit peu parlé, est-ce que ce confinement va induire des changements dans notre vie? Voilà, et va-t-il y avoir des changements? Avez-vous déjà constaté des changements, Lorenzo?
On pourrait parler, je veux dire, des bons côtés finalement du confinement. Et il y a en fait quelques textes encore dans ce recueil qui en parlent. Je pense à La Couronne, Sur un banc de Marie, Ainsi soit-il, qui est écrit par Sophie, Pandémie, par Olga, Ma méditation, que Rina vient de vous lire. Et ces textes en fait parlent de l'effet positif du confinement qui oblige les gens à ralentir, à cesser leurs courses effrénées, en quête de projets insensés, pour découvrir à la place les fabuleux trésors de la vie, qui sont tout d'abord notre famille, nos proches, et puis tout ce que la vie nous offre à chaque instant, pour apprendre à apprécier finalement tout l'univers dont nous faisons partie. Là, il y a peut-être quelques passages du texte de Sophie que j'aimerais bien lire. Parce que c'est en marchant qu'on prend encore le temps de vivre le présent, comme la valse du vent. La musique que me porte, l'harmonie est plus forte, somme au diapason, amour, paix et passion.
Très bien. Shadia, le changement, est-ce qu'il y a eu un changement pour toi, autour de toi ou pas du tout?
Effectivement, le changement, personne ne peut le nier ou le négliger. Il va y avoir toujours une période avant Covid et une période après Covid. Donc le futur, malgré qu'il ne va pas être vraiment très, très beau, mais on a tiré les conclusions et les leçons, je pense. On a appris beaucoup à vivre autrement. Ça veut dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il y a déjà des choses qui se sont installées, qui font partie de notre vie, de notre quotidien, et qu'on doit vivre avec. Mais avec une certaine force et avec un certain courage. Parce que si on a dépassé le Covid, c'est grâce à beaucoup de choses, à beaucoup d'efforts, à beaucoup de solidarité aussi. Il y a des choses qui étaient cachées, qui ont fait surface, de belles choses, je veux dire. Les gens, ils ont aussi commencé à réfléchir, à penser à l'autre. Donc le côté individualisme, malgré qu'il y en a quand même, mais c'est toujours le bon côté qui fait surface, parce qu'ensemble, on a traversé, on va traverser cette période difficile. C'est comme une guerre sans armes, en fait. Moi, je vois cette période-là, cette pandémie, comme une guerre, grande guerre, mais où il n'y a pas d'armes. Il y a un seul...
Il y a quand même des victimes.
Oui, il y a un seul personnage qui mène cette guerre, qui est invisible, et c'est ça la difficulté de la chose. Mais même s'il est invisible, les gens sont courageux pour en faire face. Donc, le futur, je le vois autrement. On va plus vivre comme avant. Donc, avant, c'est une page qui est tournée à jamais. Parce que c'est une page qui est tournée et on ne va plus revenir en arrière. On va aussi notre façon de réfléchir, notre façon d'agir. Moi, juste personnellement, dans ma vie personnelle, les choses que je faisais d'une manière spontanée, je ne les fais plus. Je dois toujours réfléchir. Comment côtoyer les gens, comment côtoyer les voisins, comment côtoyer les amis. J'étais vraiment coupée de mes amis longtemps, depuis mars jusqu'ici, parce que pour leur bien, pour les protéger aussi, les gens que j'aime, c'est ce que j'ai écrit aussi dans mon texte. Ce sont les choses qui ont vraiment changé dans notre vie et qui vont nous marquer à jamais. Mais quand même, je reste optimiste et je vais dire que quand même, on a développé des choses positives qui vont nous priver de des inconvénients, comme par exemple, si on apprend que la pharmacie ne fait pas beaucoup de ventes de médicaments à cause du Covid, parce que les gens, ils se lavent bien les mains, ils prennent soin aussi de leur santé. Là, c'est un point positif pour nous. Donc, on va faire en sorte que on va garder des choses positives du négatif, si on veut dire ça comme ça.
Oui. Amanda, qu'est-ce que le collectif virtuel, qui est l'émanation du Covid, si on peut dire ça comme ça, t'a apporté alors?
En fait, participer au collectif m'a donné l'opportunité de, à travers le test, d'exprimer mes ressentis pendant cette période, et aussi de me sentir moins seule parce que j'étais à Lyon, toute seule, confinée. Donc, ça m'a permis de échanger avec d'autres personnes et aussi changer d'idées, en fait. C'était un moment pour penser à d'autres choses. Et de concentrer à d'autres choses. C'était ça.
Voilà, très bien. Alors, je vous propose, on arrive tout doucement vers la fin de notre émission. Shadia, peut-être une lecture à distance. À distance, voilà, le terme est tout à fait de circonstance.
Oui, à distance, c'est ça le titre de mon texte que je vais, il est long, je vous ai choisi un paragraphe qui est au milieu.
Au milieu, un paragraphe
au milieu. Et qui a un titre aussi, donc c'est un titre, un sous-titre d'un grand titre.
D'accord, on t'écoute.
À distance, confinement ou assignation à résidence. Son dernier jour dans l'époque normale était ce jour ensoleillé de mi-mars, où elle a quitté son boulot sans savoir si elle allait y mettre les pieds de nouveau. Depuis, le mot dehors signifie pour elle danger, contamination, amende, virus, respirateur, etc. Tout le monde doit rester chez lui et ne plus sortir sauf dans des conditions très strictes. C'est la phrase impérative que tout le monde doit apprivoiser. De nature casanière, elle accueille courageusement le mot confinement, tout en étant persuadée qu'il ne va pas trop l'affecter. Au contraire, elle est convaincue que c'est l'occasion idéale pour prendre du répit. Au fil des jours, son chez-elle est devenu sa cellule familiarisée qu'elle ne peut quitter. Après plusieurs semaines de claustration entre deux vies paradoxales, une virtuelle, l'autre réelle, la nature humaine commence à se manifester et le besoin de voir les gens, de les côtoyer, devenu une exigence persistante. Soudain, un flashback lui rappelle son premier cours de droit d'il y a longtemps. La citation d'Aristote. L'homme est un être sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. C'est la première fois qu'elle ressent cette citation dans toutes ses dimensions. Armée d'un masque artisanal et de gants de latex, elle décide de sortir de l'auberge et d'affronter le nouveau monde. Dehors, sa rue dépeuplée, muette comme une tombe, même s'il s'agit de la place la plus bruyante d'un centre qui ne dormait jamais. Le bus affiche complet, même si peu de têtes apparaissent des fenêtres. Des pigeons en masse, des oiseaux multicolores, accaparent la route principale en toute sécurité. Elle avait l'impression d'être un personnage du film Le Dernier Homme sur Terre. Devant les magasins, des barrières implantées tout le long de la rue, derrière lesquelles se réfugie une longue file de gens qui boudent. Elle cherche inlassablement des sourires, des grimaces, même des signes de bon vieux temps. Mais elle n'en trouve rien. Les émotions se cachent derrière un morceau de tissu de différents motifs et couleurs. Seuls les yeux s'y échappent, exprimant peur, angoisse et amertume d'une âme en peine.
Eh ben voilà, merci Shadia. Alors, on aimerait bien entendre aussi Regina qui va nous parler de Masqué de Marie Tichon.
Ça pue sous mon masque, ça pue mon haleine, je me gêne. Ça transpire, ça scinte, c'est dégueulasse. Vivement retrouver les bouches, les sourires, les haleines, les lèvres qui dansent les mots, les muscles, les rides, la chair autour, les fossettes, les nez petits, grands, tordus, pointus, épatés, ambigus, l'expression entière qui donne vie aux mots. Maintenant, confiné, bridé, paré, bâillonné.
Eh bien, c'était court, mais très bon. Hein. Alors, un dernier texte. Nous allons maintenant écouter un texte de Antonia Raya Garcia qui s'appelle Année 2020, donc qui est aussi membre du collectif Démasqué.
Année 2020, les 12 coups ont sonné. En fanfare, l'année 2020 est arrivée. Nombre rond, nombre esthétique. Serait-ce une année prolifique? Échange de vœux de bonheur, nous chantons en chœur, tous les espoirs sont permis. Une situation inédite se présente bien vite. Un virus nous assaille, ronge, tue, sans état d'âme. Confinement, enfermement, tel est notre nouvel horizon. Pour certains, une réelle prison. Notre monde est désespéré, les décès se comptent par milliers. Espoir balayé, avenir muselé. La pandémie ravage, la pandémie saccage. Les familles hurlent leur douleur, déchirement et horreur. Confinement, enfermement, serait-ce finalement l'année du désespoir? Sans équivoque, elle marquera l'histoire. Gardons confiance, viendront assurément des jours meilleurs. Patience, la vie reprendra en douceur, pleine d'espérance et de couleurs.
Alors, nous venons d'entendre, voilà, la voix et le texte d'Antonia Raya Garcia. Ben, c'est certainement une façon de mettre un point à cette émission de ce soir, du 31 décembre, voilà. Bon, est-ce que c'est une année de désespoir? En tous les cas, on espère que 2021 sera l'année de tous les espoirs. Alors, je vais en profiter maintenant pour vous donner quelques nouvelles de Scripta Linea. D'abord, il y a de nouveaux parcours d'écriture, puisqu'il y a le collectif de la diversité à la créativité qui démarre un nouveau parcours. Il y a déjà eu une première réunion le 15 décembre, mais vous pouvez encore vous joindre au groupe qui se réunira évidemment dès qu'il le pourra. Bon, pour l'instant, c'est toujours, les réunions se tiennent toujours en visioconférence. En tous les cas, déjà, inscrivez-vous si vous êtes intéressé par ce collectif donc de la diversité à la créativité de Molenbeek-Saint-Jean. La prochaine date est prévue le 12 janvier à 17h. Il y a aussi de nouveaux recueils que vous pouvez retrouver toujours sur le site de scriptalinea.org. Il y a le collectif Au gré de la plume dont le recueil s'intitule « Qui compte ?». Il y a le collectif En avant dont le recueil s'intitule « Nature enchantée ». Et bien sûr, le dernier mais non le moindre, le collectif Démasqué avec son recueil « Mars 2020 ».
Rappelons ici que la Fédération Wallonie-Bruxelles et son Parlement, ainsi que la Commission communautaire française, ont soutenu la réalisation de la publication de ce recueil, entre autres parce que je dirais, il y a encore de nombreux autres projets artistiques qui sont soutenus par les autorités. Toutes ces interventions, vous les retrouverez sur le site de Scripta Linea. Voilà.
La prochaine émission aura lieu le 21 janvier 2021 et elle sera consacrée au collectif La Compagnie des Scribes. Vous pouvez toujours écouter l'émission actuelle donc sur le collectif Démasqué. Vous pourrez la réécouter le 14 janvier. Et par contre, le 7, il y aura aussi une rediffusion de l'émission consacrée au collectif Au gré de la plume et à son recueil qui compte. Bien sûr, si vous avez raté une information qui a été diffusée aujourd'hui, vous pouvez toujours tout retrouver sur le site scriptalinea.org. Voilà. Merci à Lorenzo, à Shadia, à Rosenta, Amanda, Regina et à Géraldine pour votre participation. Je vous souhaite en tous les cas une année 2021, allons-nous dire, que je vous souhaite bien meilleure et plein d'humanité et de paix à tous et à toutes.
Merci Jean-Paul.
Merci, merci, merci beaucoup.
Merci.
Bonne année à tous et à toutes.
Bonne année et à très bientôt et bonne continuation au Démasqué.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Bonne année à tout le monde.
J'aimerais écrire des mots d'amour parce que parler, c'est pas mon fort. J'aimerais écrire des mots d'amour, les faire jaillir de mes trois accords. Mais j'ai un peu froid, comme a dit l'autre, et ce long frisson qui n'en finit pas. J'ai un peu froid, mauvais apôtre, mon cafard me lâche moins souvent qu'autrefois. Yadatin, yadatin, yadamta, yada, yadadata, yadatin, 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 yadamta, da. J'aimerais écrire des mots d'amour, parce que le reste, c'est pas grand chose. Je l'ai appris à mon tour, je te le livre un peu. Je te propose de laisser le long du discours nos contentieuses et les comptes à rebours. Oubliez le temps d'un refrain, ce bon vieux réflexe, moi j'en garde pour demain. Yadata, yadata, yadamta, des mots pour toi mais que je ne dis pas. Yadata, yadata, yadamta, cela. Si je l'oublie, je cède encore. J'aimerais écrire des mots d'amour, jeter l'éponge un peu, tenter le sort. Une pause ici pour poser là, entre deux conflits, entre deux coups d'éclat. Une pause pour dire autour de moi, mon ami, mon frère, mon amour, écoute-moi. Yadata, yadata, yadamta, des mots pour toi mais que je ne dis pas. Yadata,